Bonsoir, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Donc, nous sommes ensemble ce soir avec Éric Dégaré pour le livre Pierre Paolo Pasolini, une suite et autres poèmes, et pour discuter avec lui une quarantaine de minutes, hein, pour essayer le temps de signer quelques livres. Je serai avec Didier Arnaudet qui est à notre gauche. Donc juste en introduction, je dirais que Pier Paolo Pasolini, pour nous, est une figure importante, hein, peut-être l'un des plus grands poètes et cinéastes de la fin du XXe siècle. Il est mort il y a 40 ans, c'était donc cette année l'anniversaire de sa mort, triste mort le 1er novembre 1975. Il a été retrouvé mort sur une plage d'Ostie proche de Rome, donc assassiné, et il n'y a jamais eu vraiment... Une élucidation claire de son assassinat. Voilà, ça continue à faire polémique. Voilà. Donc, juste un mot pour définir cette figure qui fut très importante pour nombre d'entre nous, et notamment, donc, je le précise, son cinéma qui a été rapproché du cinéma de celui de Godard, bien que Godard n'ait pas eu le sens du sacré, hein, comme Pasolini a eu dans ses films. Donc, c'était un intellectuel engagé, très polémique et très, disons, combattant par rapport à la société de l'Italie d'après-guerre. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup dénoncé l'oppression de la petite bourgeoisie, la collusion entre la mafia et le parti de la démocratie chrétienne, notamment dans les années de plomb, donc 69-75. Et donc, beaucoup de gens disent que son assassinat n'était pas un fait divers comme on a pu de penser à l'époque, mais que ça avait été télécommandé par des gens qui voulaient vraiment se débarrasser de lui. Donc il est rentré dans l'histoire à 53 ans et a laissé une dizaine de films et une vingtaine de livres vraiment très importants. Voilà, donc juste pour dresser le tableau de cette figure qui est mythique. Et donc de suite, je voudrais demander à Éric, avant de parler de la forme très particulière de ce livre, quel est le lien, quel est son lien fort parmi tous les auteurs qu'il aime avec Paolo Pasolini pour qu'il lui consacre comme ça une suite d'une cinquantaine de pages qui constitue la moitié de cet ouvrage.
Le lien, il est d'abord littéraire, il n'est pas cinématographique. Je l'ai beaucoup lu, je l'ai découvert en lisant les poèmes en frioulant qu'il écrivait dans sa jeunesse en frioulant. Il faut savoir que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, on était en régime fasciste et que le régime fasciste interdisait l'usage des langues dites régionales. Donc c'était déjà en soi un acte de résistance et je trouvais ces poèmes absolument lumineux et ils m'ont infiniment touché. Donc ensuite j'ai bien entendu lu d'autres poèmes de Pasolini, notamment parce qu'il y a une évolution assez nette quand même de sa poésie. J'ai lu notamment Les Cendres de Gramsci, que je tiens pour un des plus beaux poèmes qui soit. Donc c'est une résonance qui est entrée en moi et qui m'a profondément bouleversé. Je ne conçois pas de rapport à la littérature et à la poésie autrement que par le bouleversement que l'on reçoit.
Didier. Alors, moi j'ai lu ce livre comme un exercice d'admiration. Et bien sûr, je pense à Sioran, ces exercices d'admiration. Mais à cette époque où l'art de l'admiration est très difficile, je trouve que tu as pris le risque d'admirer avec lucidité, élégance, et que ça donne une tonalité très, très particulière à ce livre. Alors, justement, cette idée d'admiration que je retrouve souvent dans ton travail. Tu es quelqu'un qui admire. Tu es quelqu'un qui est souvent dans une forme de reconnaissance profonde. Et j'aurais voulu savoir, d'abord, parce qu'il n'y a pas que Pasolini dans ce livre, il y a Lubat, il y a Cadio. J'aurais voulu savoir ce qui, pour toi, rapproche ces voix aimées et pourquoi ce lien si fort avec l'autre.
Il pose ces questions. oui, exercice d'admiration, oui. J'avais envie d'écrire sur ce que j'aime. Il y a quelqu'un qui est dans la salle à qui je dois beaucoup. Je suis Jean-Paul Michel, je vais le dire. et dont tout le travail est aussi, me semble-t-il, un exercice d'admiration. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à être libre dans ce que j'entreprenais. Et à partir de là, je suis quelqu'un qui se moque complètement en termes d'écriture, des modes. Et j'essaye d'aller ma petite voie sans m'en tenir à aucun cénacle. Je ne vois pas que l'écriture puisse être autre chose que la reconnaissance de ce qui nous touche. Et dans ce qui me touche, il y a bien évidemment la littérature. Tu prends... alors, ce sont trois cas très différents. Je suis extrêmement touché par Pasolini. On aura l'occasion d'y revenir. Lubat, c'est quelqu'un qui m'émeut profondément parce que je pense que si ce qu'il fait dur, c'est que c'est d'abord parce que c'est un artiste exceptionnel. Et ça nous engage à nous interroger aussi par rapport à la culture sur ce qui dure. Et ce qui dure, ça tient d'abord à l'artistique quand il est à ce niveau-là. Et Cadio, c'est encore autre chose parce que nous avions été en bande. D'ailleurs, l'écouter à Avignon quand il était artiste invité, c'était en 2010. J'ai été fasciné par cette scène de la cour des papes nue avec une petite table. Et cet auteur qui lisait ses textes. Et je trouvais que cette venue de la littérature dans la cour des papes, où il d'ordinaire était plutôt, entre guillemets, envahi par la scène théâtrale, avait quelque chose d'absolument magnifique. Et ça m'a vraiment, ça m'a profondément ébloui. Et en plus, à la fin, il y avait un moment de grâce absolue. Et il y avait une fenêtre à droite et il y avait le voyage d'hiver de Schubert qui était chanté, et je me retrouvais complètement dans ces liens, dans ces résonances. Et je ne conçois pas ce que j'aime en matière d'art. La musique a chez moi une importance extrêmement importante autrement. Donc il y a effectivement des liens, ce sont des liens très différents, c'est pas les mêmes, c'est des gens qui me bouleversent ou qui me touchent de manière différente, mais pour moi effectivement, oui, très profondément, je suis dans un exercice d'admiration. Je crois que je parle aussi d'un auteur qui m'est très cher, comme Mandelstam. Je suis tout le temps là-dedans. Oui.
Et justement, alors, tout ce travail se fait sur une sorte d'alliance entre la légèreté et la gravité, la présence et l'interrogation. Et c'est vrai que quand on lit tes poèmes... on a toujours l'impression, alors ces poèmes sont toujours très incisifs, très ciselés, il y a quand même une inscription du poème, de la forme du poème dans la page qui est toujours très très forte, et on a aussi cette idée un peu d'un équilibre, tout paraît en équilibre, et me vient l'idée un peu du funambule, quelqu'un qui à la fois, je veux dire, lutte contre le vide, assume l'idée de ce vide et puis cherche à le maîtriser pour effectivement s'en servir. Et cette idée, je veux dire, de l'équilibre, elle est très très présente dans ces poèmes. Et j'aurais voulu savoir pourquoi, je veux dire, cette idée, je veux dire, que l'écriture passe toujours quelque part pour toi par l'idée de l'attention. Il y a toujours une mise en tension, une mise en équilibre dans ton travail, dans le travail poétique, et notamment dans ce livre-là.
Ça, je crois que ça tient à la forme même du poème, qui n'est quand même pas le mode d'écriture le plus ordinaire qui soit. Donc moi, je respecte infiniment le poème, et j'ai presque parfois... je me sens... C'est toujours très délicat d'écrire des poèmes, parce que pour moi, c'est le genre le plus haut. Le poème n'est pas de la prose, c'est véritablement une scansion intérieure. Et donc, on doit essayer de traduire par le poème ce que l'on porte en nous, en tous les cas, de ce que l'on a choisi de porter et de traduire. Et ça exige effectivement un rythme très particulier. C'est ça qui doit sans doute créer cette tension. En tous les cas, on la recherche. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le débordement, ça c'est sûr. Et donc, j'essaye de trouver, parce que permet le poème, qui est quand même une inscription du mot dans la page, qui est très particulière et qui va donner ce rythme, qui est pour moi absolument essentiel. Après, dans mes lectures, j'ai toujours été nourri d'abord par le poème, par la poésie. Et d'ailleurs, je fais dans ces poèmes, j'ai pas mis les guillemets, mais il y a d'autres poètes qui apparaissent à travers des vers et qui sont dans ces textes. Je vous laisserai le soin de les trouver, et ça poursuit un peu les exercices d'admiration. Il y a même un vers qui n'est rien d'autre qu'une phrase, une petite phrase de Chateaubriand. Voilà. Merveilleux écrivain.
Alors, c'est vrai que tu insistes souvent sur cette différence. Bon, c'est un livre de poésie, de poèmes. Alors moi, j'ai pas le sentiment effectivement qu'il y a une rupture. Chasser l'intrus, pour moi, c'était vraiment de la poésie. Et ce livre, pour moi, est la suite de ce journal. Bon, alors c'est vrai qu'il y a une forme un peu différente dans l'inscription dans la page, mais la résonance est la même et les préoccupations sont les mêmes. Pourquoi toujours le fait que tu dises, voilà, effectivement, je ne suis pas très à l'aise, parce que là, c'est des poèmes, mais bon, pour moi, il n'y a pas de rupture entre ces deux livres qui sont, pour moi, de la même résonance.
Non, mais je ne pense pas qu'il y ait de rupture. Après, la forme est fatalement différente, parce que l'exercice poétique engage de manière tout à fait différente. En tous les cas, c'est certain qu'il y a des résonances, parce que l'univers, quelque part, reste le même, mais ce que tu vas dire par le poème n'est pas de la même nature que ce que tu diras en prose, parce que par nécessité, tu positionneras autrement, par le fait du vers, les mots autrement, sur la page. Bien sûr qu'on peut considérer qu'il n'y ait pas de rupture, mais la forme est quand même un petit peu différente. Après, c'est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un qui est porté par la tension, hein, ce que tu le disais tout à l'heure, par quelque chose qui est assez incisif, qui est assez sec. Je ne suis pas quelqu'un qui se répand beaucoup. Donc, je pense aussi que ça correspond sans doute à quelque chose qui a trait à mon caractère et que je trouve là-dedans la voix que je n'utiliserai jamais, que l'on ne peut pas utiliser dans le langage ordinaire de la vie de tous les jours. C'est, écrire, c'est aussi très profondément s'écarter de cette langue-là pour essayer de traduire une part de soi.
Voilà. Alors, je poursuis en disant que dans ton écriture, tu associes la pudeur, la retenue avec l'intimité. Donc, on a l'impression d'entendre la façon dont tu t'adresses à Paolo Pasolini, une espèce de parole secrète. Donc, on est dans quelque chose de souterrain, et là où la poésie prend toute sa puissance, on est dans une voix qui n'est pas partageable par le commun. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Je souhaite en tous les cas qu'elle soit partageable, sinon je n'aurais pas accepté qu'elle soit ou qu'elle fût reçue par un éditeur. Comment répondre à une question ?
Parole secrète, la parole secrète.
Non, ce n'est pas une parole secrète. C'est venu assez facilement, le poème. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis retrouvé, parce que j'ai mes petits rites d'écriture, et un jour, j'ai commencé, parce que cette voix m'habitait tellement depuis des années et des années. J'y reviendrai, il y a quand même eu aussi l'histoire du film de Ferrara qui m'a beaucoup agacé, que je n'ai pas été voir. Et puis c'est venu, et puis d'habitude je suis plutôt sur des formes assez brèves, et là j'ai eu envie progressivement de donner une suite qui s'est faite dans un temps malgré tout relativement bref, parce que même si je travaille un peu mes textes, je dirais que ça vient assez facilement aujourd'hui, peut-être parce que je me suis beaucoup exercé. J'ai écrit des cinquantaines et des cinquantaines de poèmes de valeur tout à fait inégale, et que petit à petit on chemine et on trouve sa voix. Mais là, c'était vraiment ça répondait à une nécessité d'échanger avec Pier Paolo Pasolini. D'ailleurs, quelqu'un qui est là me disait, mais t'es incroyable, toi tu vas aller tutoyer Pier Paolo Pasolini, prendre cette liberté. Moi, ça me paraît assez évident. Je connais quelqu'un qui est aussi dans la salle et qui fait ça d'ailleurs. Et j'avais envie d'échanger avec cette figure, cette voix. Et c'était quelque chose qui était inscrit très très profondément en moi. Quand on est touché, vous pouvez trouver ça d'ailleurs dans la poésie entre guillemets religieuse ou voilà. Donc on a envie de correspondre avec ces mots à soi, avec cet interlocuteur privilégié. Alors si tant est que ce ne soit pas partageable, ça serait peut-être de cet ordre-là, mais en tous les cas, ce que je souhaite, c'est que résonne quelque chose auprès des lecteurs qui puisse leur faire sentir qu'il y a ce lien. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Je suis devenu très lié à un cinéaste qui s'appelle Lucas Bellevaux, qui lit plus du tout de poésie depuis très longtemps, et il a lu ses poèmes, il est revenu à la poésie et il a été touché par cette résonance. Donc je me suis dit qu'effectivement c'était partageable.
Souvent tes textes prennent l'allure du chant, la possibilité d'une grâce humaine, je te cite. Hein. Et cette question du chant, c'est vrai que particulièrement dans ce livre, je vais en lire un extrait, comme ça,
c'est bien, ouais.
qui touche aussi au... Il y a toujours ça touche toujours à l'idée du scandale d'être ou du mensonge d'être. Effectivement, c'est une expression qui revient assez souvent dans ces textes. Et je te lis. Le scandale d'être, notre liberté, par le chant, notre dignité, notre soif, à jamais.
Ben voilà, c'est dit.
Non, alors, alors, ce chant, pourquoi cette...
Le chant, ça, c'est...
Qui revient
ça. Mais non, mais je suis marqué, je l'ai dit, par le poème. Après, j'ai des voix qui me traversent de manière foudroyante. C'est le cas de Hölderlin, on est dans le chant, ou une voix italienne que j'aime infiniment, qui n'est pas si éloignée que ça d'Hölderlin. Je pense notamment à cette autre qui s'appelle Les Genêts, c'est Leopardi. Donc moi, je suis quelqu'un qui reconnaît le chant comme peut-être l'expression la plus belle que l'on puisse trouver dans le poème. Il est vrai, par ailleurs, ça s'appelle le chant, que je suis quelqu'un qui aime très, très profondément la musique, quasiment autant que la littérature. D'ailleurs, ce soir, il y a quand même un très beau concert à l'auditorium sur Mozart. Il y a un clin d'œil à Mozart. Et je suis imprégné de ça. Et je pense que précisément, le poème notamment permet cette expression du chant que ne permet pas d'autres formes de langage. Après, il y a d'autres formes poétiques qui sont dans la cassure, dans le déni du chant, qui sont assez sèches. Ce n'est pas mon monde. Moi, j'aime le chant. Alors, le mien est plutôt sec malgré tout, mais je suis quelqu'un qui vient du chant et qui a été illuminé par ces deux auteurs dont j'ai parlé. Il y en a d'autres. Il y a des formes de chant qui sont extrêmement différentes. Par exemple, c'est un autre auteur italien que j'aime beaucoup, qui est Pavese, dans Travail et fatigue, une poésie plus narrative, mais qui relève aussi du chant. Après, il y a des chants plus syncopés qui me touchent infiniment, comme Emily Dickinson. Et je suis plus de ce monde-là. Donc, effectivement, dans le rapport au contemporain, de ce point de vue-là, je me sens pas forcément proche de beaucoup de travaux, ce qui ne m'empêche pas d'aimer certaines choses sur le contemporain, d'où d'ailleurs l'hommage à Olivier.
D'où ton intérêt aussi pour les oiseaux.
Alors, les oiseaux, c'est autre chose. C'est un intérêt qui est de l'ordre aussi comme le chant de la résonance. C'est-à-dire le chant des oiseaux, moi, je le reçois. Je vous conseille quand même, avant que le soleil ne se lève, d'écouter ce qui se passe. Vous écouterez le chant des oiseaux et vous remarquerez notamment qu'il y en a un qui chante délicieusement bien dans les villes, c'est le merle. Et vous verrez qu'il a une modulation extrêmement différente, extrêmement variée. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense à un autre musicien qui est assez fascinant pour ça, c'est Olivier Messiaen.
Bon. Éric, souvent dans tes textes sur Pasolini, tu dis que tu prends des forces dans les poèmes de Pasolini quand tu t'adresses à lui. Alors, parle-nous de ça. Est-ce que c'est possible grâce à votre échange de poète à poète? Est-ce que le poème sert à prendre des forces aujourd'hui? Quel est le rôle du poème aujourd'hui?
Moi, je pense que là, le plus simplement du monde, oui, je me nourris de cette force qu'offre l'art. Si nous avons une présence humaine, et on la doit beaucoup à cette présence d'art, et c'est elle qui me réconcilie aussi, pas seulement, profondément avec le monde. Donc moi, je me nourris, si on peut appeler ça une force, oui, je me nourris très profondément de ça, et je ne vois pas vivre sans cette force-là. Et cette force-là, elle n'est d'être qui crée, et je m'en nourris certainement plus sûrement que d'autres forces, pour le moins, mensongères. Y reviendront.
Et là, le jeu aussi, le jeu est très très présent dans tous ces textes.
Le J-E.
Le jeu, oui, J-E-U. Mmh. E-U.
Ouais, je m'en doutais qu'elle aimerait.
Le jeu. Et le jeu, alors chez Pasolini, c'est le jeu tragique de la marge, de l'expérience des limites. Pour Lubat, c'est. Il parle avec les mots, il joue. Pour tout ça, j'essaie de souvenir de tête. Pour Cadio, c'est il joue sérieusement, mais il joue. Et donc, ce jeu de la langue, c'est vrai qu'effectivement, tu le passes à travers pratiquement ces trois portraits. Et en espèce comme ça, on a une espèce de renvoi de l'un à l'autre.
Je ne sais pas si je parlerai de jeu J-E-U pour Pasolini, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé. Je sors le côté politique. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose d'assez tragique en lui. Et peu importe sa mort, même si on peut y revenir d'une certaine manière. Après, le jeu fait partie de la vie. Le jeu peut être extrêmement sérieux. Sur Cadio, je mets une formule, je crois, c'est que l'adolescence est un art. Mmh. Et c'est ça qui me fait qui résonne en moi quand je l'écoute, l'entends ou le lis. Moi, j'aime le jeu aussi, mais c'est un jeu assez sérieux que la littérature, mais ça peut être aussi un jeu. Oui, pourquoi pas.
Alors, une note un petit peu plus grave, parce que tu parles, tu as une idée précise de la mort de Pasolini, une hypothèse de la mort de Pasolini, et à un certain moment, dans ton livre, tu écris sur la plage d'Ostie la mort du poème. Que venais-tu faire ici, sinon céder enfin à la mort, comme si le politique avait à voir avec ce destin voulu? Tu jouais avec la mort, Pier Paolo, tu savais sa victoire. Donc il y a cette tension, il y a cette volonté, et tu penses que Pasolini a été au sacrifice dans cette fameuse nuit à Ostie.
C'est ce que je pense à la lumière de certaines choses. D'abord à la lumière de plusieurs faits précis. Le reniement de la trilogie, El Decameron, les contes de Canterbury, je crois les contes de Mille et Une Nuits, qu'il exprime dans les écrits corsaires. Il y a le fait qu'il reprend tous les poèmes, nouveaux poèmes de jeunesse. C'est un poème où il reprend les poèmes en frioulant, ou certains dont je parlais tout à l'heure, et il fait ce qu'on pourrait appeler des contre-poèmes, où il revient sur ce qui était de l'ordre de la lumière, de l'illumination. Il a une vision extrêmement noire des choses. Le dernier film qu'il fait, c'est quand même Salaud. Qui est quand même un film dur, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc j'ai le sentiment qu'il va à la mort. On a voulu en faire une mort uniquement politique. Personnellement, je ne le crois pas forcément. D'abord, sa mort lui appartient. Et puis voilà. Mais la réduire à ça me paraît... Voilà. Et après, il y a eu ce phénomène Ferrara qui commence par parler de Pasolini par ce dernier jour. En plus, c'est quand même la nuit du 1er novembre. Voilà, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Bon, après, c'est une hypothèse. Je ne sais pas si elle est absolument invérifiable. C'est une hypothèse que j'exprime et que je ressens très profondément dans ma lecture. En tous les cas, ça, c'est quelque chose d'assez viscéral. Mais je peux me tromper.
Alors, tu parles de la lumière, et pour moi, on peut parler de Pasolini, c'est parler des Lucioles, que j'aime beaucoup. Alors, les Lucioles, et donc à ce livre de Georges Didier Berman, Survivance des Lucioles. Et c'est vrai que Georges Didier Berman dit être contemporain, c'est faire apparaître la lumière dans l'obscurité de toutes les menaces. Et, et pour moi, les Lucioles, c'est une forme de résistance. Cette forme de résistance qui, d'une certaine manière, on trouve aussi, je veux dire, dans tous ces textes, et notamment dans la partie qui est consacrée à Pasolini. Même si, effectivement, c'est un peu différent quand tu abordes Olivier Cadio. Mais les Lucioles, bon, on en a déjà parlé, cette forme de résistance, c'est quand même quelque chose aussi que l'on retrouve aussi dans nombreux de tes écrits.
Oui, peut-être par rapport aux Lucioles, je pense que quand là aussi, hein, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à sa mort, dans les écrits corsaires, c'est le fameux article sur la disparition des Lucioles, dont il fait d'ailleurs un rapprochement avec ce qui se passe en politique, la démocratie chrétienne en Italie, dont lui, il met un segment pour expliquer la coupure qui se passe dans la société italienne à partir de la disparition des Lucioles, qui serait due notamment à des problématiques environnementales. Lui, il extrapole, bien évidemment. Il dit c'est la fin d'un monde, c'est la fin de des Lumières. Ça renvoie à une lettre, ça dit Huberman le fait très bien en début de l'ouvrage, qu'il avait avec un ami, où il explique la beauté quand ils allaient le soir et qu'il y avait les Lucioles qui les illuminaient, et que cette liberté des corps, cette lumière, cette adhésion au monde. Hein, donc lui, il en fait quelque chose de très profond. Huberman, lui, va plus loin. Et pour Pasolini, il parle de la disparition des Lucioles. C'est ça le titre de l'article des écrits corsaires. Le livre de Didier Huberman, qui est absolument sublime, dit qu'il faut continuer à résister par les Lucioles. Moi, je me situe effectivement très profondément dans cette résistance-là. J'ai presque envie de dire aujourd'hui que je ne vois plus de résistance que là, si je considère l'environnement dans lequel on évolue à l'heure actuelle, ou en tous les cas qui n'est pas le fruit du hasard et qui est profondément désespérant. Donc oui, moi je crois encore aux Lucioles et aux poèmes.
Et justement, ce qui menace les Lucioles, c'est pas la nuit noire, c'est pas l'obscurité, ce que dit très bien Georges Duberman aussi, c'est l'espace surexposé, lumineux, c'est les féroces projecteurs des miradors et des plateaux de télévision et des shows politiques. C'est aussi quelque chose sur lequel ça résonne aussi pour toi, tout ça.
Tout ce qu'a dit, en fait, ce qui fait aussi que Pasolini est un contemporain, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit sur la société de consommation, il meurt en 75, est d'une justesse totale. Et je veux dire aujourd'hui, ça fait résonance avec un livre que j'aime beaucoup de Jean-Christophe Bailly, je suis toujours dans mes résonances, qui s'appelle Adieu, où il explique qu'aujourd'hui, il n'y a plus véritablement d'idéologie et que la seule chose qui pourrait être une idéologie, mais qui n'en est pas une, c'est le marché. On est en plein quand même dans ce que dit Pasolini. C'est une espèce d'arasement du monde par l'économie. Et je regrette que tant de gens de gauche ne jurent le monde politique que par l'économie. Je pense que là, il y a une défaite de la pensée qui est profonde. Et tout ça crée une résonance qui, chez moi, est extrêmement forte. Oui.
Alors, dans tes textes, Eric, tu affirmes une volonté de lucidité et tu ne cèdes jamais au mensonge. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es un moraliste ?
D'abord, c'est pas à moi de le dire, parce que la morale ne vaut que par la pratique que l'on fait de sa vie. Donc, il appartient à autrui d'en juger ainsi. Après, oui, je suis quelqu'un qui est... Alors là, je le retrouve aussi un peu, parce que c'est quelqu'un aussi qui a quand même deux pôles qui, à l'époque, peuvent s'expliquer, mais qui sont très forts chez lui. C'est la chrétienté, qui est quand même une écriture. L'écriture de la chrétienté est une écriture qui me fascine. Et puis aussi le communisme. Alors l'écriture du communisme me fascinerait moins. Mais donc voilà. Après la morale, oui, je pense que c'est quelque chose. Mais enfin là, je suis un être tout à fait ordinaire. Difficilement qu'on ne puisse pas vivre sans avoir une certaine morale de la vie. Mais le problème, c'est qu'elles ne se ressemblent pas toutes. En tous les cas, je trouve que le Pasolini est un être profondément moral. Donc il a passé sa vie à être attaqué sur son immoralité. Je ne vois pas d'être plus moral aujourd'hui que Pasolini. Et en tous les cas, cette figure résonne en moi, encore une fois, j'utilise ce verbe, comme une présence extrêmement forte et qui m'aide à vivre parce qu'elle représente ce que je considère être comme une vie engagée, une vie d'être. En plus, j'aime beaucoup les moralistes, mais ça, c'est encore autre chose pour leur écriture.
Oui, alors le poème comme forme de résistance, donc comme forme d'engagement. Et dans ce livre, tu choisis clairement ton camp. Tu te positionnes contre les geôliers de la langue et de la culture. Tu te positionnes contre ceux qui ont des certitudes, qui sont englués dans leurs certitudes. Tu te positionnes contre ceux qui ne savent pas jouir de la langue. Donc, pas qu'au niveau politique.
Si on aime la littérature, alors, puisque c'est le centenaire de Barthes, on va pas la rejouer, mais c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du plaisir et de la jouissance. J'utilise ces deux mots à dessein par rapport à Roland Barthes. Oui, enfin ça c'est. Tu me disais ça par rapport à quoi là? Tu m'as perturbé.
Par rapport à un engagement. Tu as parfois la dent dure.
Mais j'ai toujours eu la dent dure. Il disait que j'étais moraliste. Oui, les geôliers, je ne devrais pas le dire vu le métier que j'occupe, mais je suis de plus en plus agacé par le fait que le culturel déserte totalement l'artistique qui n'est plus que le prétexte, qui devient par exemple plus qu'un prétexte. Bon, pour moi, le culturel est aussi fondamentalement quelque chose qui touche à l'artistique. Alors là aussi, la personnalité et la figure de Pasolini me touchent. Pourquoi ? Parce que ce qui l'attache au Frioul, c'est aussi ce qui se passait dans le Frioul. C'était les lumières du Frioul, les habitants du Frioul. Après, il part à Rome pour les raisons que l'on sait. Il va s'attacher au peuple de Rome, mais dont il n'a jamais considéré que c'était un peuple homogène. Ça fait référence notamment au travail d'Agamben. Il l'aimait dans sa diversité, dans sa crudité, dans ce qu'il était, dans sa culture. Ce qui veut dire que, un peu comme Genet d'ailleurs peut-être, c'est quelqu'un qui avait cet amour d'un monde, de ces mondes, aujourd'hui qui sont, et il le constate, qui sont assez décimés, qui sont là aussi arasés par la société dans laquelle on vit. Ça, pour le coup, je suis dans l'actualité. Je crois qu'il faut quand même, après je ne vais pas jouer les prêcheurs, il faut quand même retrouver le goût de l'autre, et j'aime pas faire des citations sans arrêt, mais ce putain de mot d'identité me pompe l'air, et je préfère comme Ricoeur parler du mot de reconnaissance, par exemple. Et je me retrouve plus dans ces engagements-là. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui, au prétexte d'avoir les clés pour pouvoir au moins essayer de trouver des réponses, se sont repliés sur eux-mêmes, se sont littéralement coupés du monde. Alors ça peut valoir en politique, comme ça peut valoir parfois aussi en art ou dans d'autres formes d'expression. Et ça m'agace. Donc une figure comme Pasolini, de ce point de vue-là, me parle, parce que dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer quelques êtres qui m'ont ouvert à ça. Je viens d'un milieu qui n'était pas forcément prédestiné pour avoir cet esprit-là. Et là aussi, encore une fois, c'est ma famille pour moi, même si elle est... Ça c'est ma vraie... Indépendamment de ma propre famille à moi, mon épouse et mes enfants, ça serait vraiment mon autre famille.
Parce qu'on parle beaucoup de Pasolini, mais il y a quand même un très court, mais très très beau texte dédié à Bernard Lubat, et un superbe texte aussi sur Olivier Cadio. Donc c'est vrai, c'est vrai qu'on associait Lubat et Cadio et Pasolini. Bon, au départ, je me suis... mais pourquoi pas? Mais justement, je veux dire... Le fait que tu aies convoqué d'une certaine manière ces trois personnages, pour moi, ça a aussi du sens. Et pourquoi ces trois-là?
D'abord, c'est l'éditeur qui a choisi quand même de les rassembler.
Parce que tu as écrit ces textes.
Voilà. Bon, il se trouve qu'après, ça donne peut-être une forme particulière dans ces exercices d'admiration ou de reconnaissance, peut-être encore mieux, que j'ai vis-à-vis de ces trois personnes. Donc, je consacre effectivement un poème à Bernard Lubat, parce que Bernard Lubat m'a touché. Donc, puisqu'il m'a touché, j'essaye de lui rendre ça et de dire à autrui que c'est une présence magnifique. Olivier, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, Olivier, c'était différent parce que ça me permettait aussi de m'amuser quand même avec la langue, je ne devrais pas dire ça comme ça, et de faire un jeu. Et c'était d'autant plus intéressant comme exercice qu'après, en le relisant, ou en lisant des livres que je n'avais pas lus, je trouvais des formules que j'avais mis dedans qu'il avait. Quoi. Donc, je veux dire... Après, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Je ne connais pas de personne qui parle plus merveilleusement, par exemple, de Proust qu'Olivier Cadio. Donc, il ne faut surtout pas croire que ce soit quelqu'un qui ne serait que dans une forme du contemporain qui serait en rupture. Ce n'est pas du tout ça. Et au contraire, il est travaillé par ce lien entre son travail contemporain et son goût de la langue. Et il est de plus en plus travaillé au point que peut-être un jour, il fera quelque chose peut-être de différent, comme l'annoncerait peut-être de la Providence. J'en suis intimement persuadé. Après, c'est encore une fois, c'est des figures qui m'ont beaucoup touché. En plus, j'ai eu la chance de m'approcher un peu d'Olivier. Il y a un peu d'amitié, et ça peut jouer aussi là-dedans.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette pièce est en rupture quand même par rapport à la pièce sur Pasolini, parce que c'est une pièce beaucoup plus joyeuse, une pièce vraiment de provocation, d'humour et d'amour. Et où tu avances des choses très très belles et tu dis à un certain moment sur cette scène dans la cour des papes à Avignon, tu dis « il lave la scène ». Voilà, donc il y a des mèmes de la provocation de ta part par rapport à ce milieu du théâtre qui pourtant reconnaît les textes. Hein. Mais en tout cas, c'est une sorte de balade très joyeuse et un peu potache et donc il y a une différence... avec la tonalité sombre de la pièce autour de Pasolini. Et je voudrais te dire un mot aussi, le livre se termine sur un choix de quelques poèmes, un poème mêlé, avec des choses là qui sont à la fois de l'ordre de la réflexion et de la philosophie de ce qui se passe dans un poème aujourd'hui, et de la confrontation aussi avec la nature qui devient une vraie scène. Et donc là, on retrouve la scène lavée peut-être par Olivier.
Sur Olivier. Alors après, on va croire, et je vois qu'il y a Gilbert qui est là, que je n'aime pas le théâtre. Non, c'est pas vrai. J'ai parfois du mal avec le théâtre. Et Gilles Berset, qui à une époque, quand j'étais au Centre régional des lettres, je reprenais la phrase de Baudelaire qui, à peu de choses près, moi, ce que je préfère au théâtre, c'est le lustre. Bon, c'était un peu de la provocation. Bien évidemment, je peux aimer le théâtre. J'ai vu des choses très belles sur le théâtre. Et il y a des acteurs qui me touchent, comme Nicolas Bouchaud, d'ailleurs, je tiens à le signaler, qui vient, d'ailleurs, mais je ne l'ai pas vu, monter un travail sur le Méridien de Paul Celan. Donc, j'exagère un petit peu les choses, mais je pense que le fait de laver la scène, je pense que ça pourrait aussi valoir pour la littérature, qui est quand même infestée de personnages qui sont particulièrement pénibles, qui reviennent parfois d'ailleurs dans mes carnets ou ailleurs, comme je pense d'une personne qui m'agace et qui est la quintessence de tout ça, c'est Charles Dantzig. En même temps, ce matin, pour me mettre en forme, je relisais les conseils à un jeune littérateur de Baudelaire, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, oui, je pense qu'il faut laver la scène du monde. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ça c'est toi, dans une intervention que tu avais faite il y a 2 ou 3 ans aux Escales du Livre.
Alors, pour revenir sur Olivier Cadiot, alors, dans ce texte, à un moment donné, il y a une image qui m'a particulièrement frappé, celle de l'épouvantail. Donc, je lis. Alors après, tu expliqueras ce que tu entends par épouvantail.
J'en suis capable,
ouais. Alors, un épouvantail, oui. Un épouvantail dans le champ de la langue, beau de son impuissance, de ses pièces de tissu, un magicien d'os, Olivier, oui, fluo.
Alors, dedans, il y a plein de choses. Il y a d'abord le magicien d'os, et je pense que j'ai une fascination pour la comédie musicale américaine. Bon, voilà, donc on le retrouve, l'épouvantail. Je pense que là, maintenant, dit comme tel, ça fait immédiatement référence. Voilà. Donc, il y a ça. Après, sous l'apparence d'un épouvantail, avec ces histoires de collage, d'assembler des choses comme ça, de la langue, pour les faire tenir, ça pourrait être l'ordre de l'épouvantail. Mais pour moi, c'est d'abord l'épouvantail du magicien d'Oz. Or, cet épouvantail-là a quelque chose, pour moi, de profondément lumineux. Et voilà, donc je pense que ça s'est construit comme ça dans ma petite tête. Après, c'est pas prémédité. Moi, quand j'écris, je mets pas 300 ans à. Enfin, ça vient et c'est toute une espèce de sans doute de quelque chose qui se passe derrière. Et j'aime assembler ce que j'aime. Je veux dire, donc automatiquement, ben voilà, et qu'est-ce qu'il va foutre avec Judy Garland, Olivier Cadiot. Pour moi, c'est évident. Donc, faire ces liens-là, c'est une. C'est mon être à moi, donc j'ai envie de l'exprimer et de le lier. Bon, ça, voilà, je pense que très profondément, ça renvoie. La construction s'est faite très rapidement comme ça, et je ne sépare pas. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vit de, encore une fois, on l'a dit, de ce qui le touche, comme tout le monde. Et bien moi, dans ce qui me touche, effectivement, là, j'associe le magicien d'Oz à Olivier Cadiot, de même que je peux pas parler. Enfin, quand j'écris sur Pasolini, je pense à Ungaretti, Mandelstam, Pavès. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Moi, je fonctionne comme ça, et parce que ce sont ces voix-là, ces films-là, puisqu'on parle de films. Qui m'ont fait comme la musique me fait tous les jours, parce que j'en écoute beaucoup. Donc moi, je suis fait de ça. Donc automatiquement, si j'écris avec ça. Avec quoi d'autre veux-tu que j'écrive? Sinon, je vais avoir une écriture sèche, inintéressante et sans vie, donc, et sans être.
Pour Olivier Cadiot, tu parles aussi d'une rapproche de Molière.
Ah oui, ça c'était tout un jeu sur le tabac et Molière par rapport à... C'était un gros clin d'œil théâtral. Et voilà, donc ça m'amusait. J'étais bien obligé de parler un peu de Molière. Il y avait quelque chose de Molière d'ailleurs dans cette présence sur la cour des papes. J'aime bien le théâtre de Molière, oui. Donc il y avait de ça, oui. Il y avait de l'ordre de la comédie. Mais c'est une comédie qui est drôlement bien troussée chez Molière.
Alors, le temps passe et on va laisser la parole à Hassan s'il y a quelques questions. Moi, je voulais aussi dire que derrière une langue que tu veux volontairement et que tu décris volontairement comme une langue simple, pure et essayant d'aller à l'essentiel, tes textes sont quand même, de façon très souterraine, imbriquent beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de références. Ils ne sont pas si évidents ou lisibles que ça. Il y a une complexité importante, notamment dans ce texte de Pasolini. Donc je tenais à le souligner. Je ne sais pas ce qu'en pense Didier.
Oui.
Non, mais j'essaye, sincèrement, j'essaye d'écrire... Sans concession, c'est-à-dire je cherche pas à, j'écris pas en fonction d'un lecteur, c'est ça non. Mais si on a parlé du chant, je veux au moins qu'il y ait un rythme. J'espère que c'est un peu fluide quand même. Bon, peut-être plus dans la prose que dans le poème. Après chacun, voilà. Mais je pense que c'est quand même plus facile à lire que du Philippe Beck ou d'autres voix, très très sincèrement. Après, forcément, si vous écrivez sur des textes sur Pasolini ou sur Cadio, je reviens sur Pasolini, je demande à minima quand même pour le recevoir que la personne connaisse un peu l'œuvre de Pasolini, sans quoi effectivement ça sera difficile pour lui, peut-être. Donc, et au-delà de Pasolini, je disais que je croisais avec des vers d'autres poètes, j'ai parlé de Chateaubriand, c'est un extrait de La vie de Rancé, qui est un des plus beaux textes en prose qui ait jamais été écrit pour moi. Voilà, donc il y a ça automatiquement. Oui.
Et bon, je pense que je ne pouvais pas faire cette rencontre sans citer quelqu'un dont on a tous les deux une grande admiration, c'est Serge Danet. C'est vrai que en lisant tes textes, c'est toujours une vision du monde et donc c'est toujours un point de vue. Et j'ai pensé à cette citation de Serge Danet qui dit le point de vue, c'est une situation concrète dans un paysage encombré. Elle est d'abord subjective, mais elle crée de l'objectif. Et je trouve qu'effectivement, ça résonne assez bien par rapport à ma propre lecture.
Bah, évidemment, si tu me mets dans la lignée de quelqu'un dont tu sais que j'ai, qui m'a marqué à un point qui est inimaginable, quoi, je veux dire, qui m'a réconcilié avec le cinéma de mon enfance d'ailleurs, où je m'apercevais qu'en fait, en aimant quelqu'un que j'aime beaucoup comme John Ford, mais pas Howard Hawks, j'étais dans une vérité du cinéma et au-delà sa pensée sur le cinéma. C'est quelqu'un qui m'a bouleversé, Serge Danet. Et je parlais de Nicolas Bouchot tout à l'heure. Il y a eu, puisqu'on parlait de théâtre, il avait fait un travail autour de ses entretiens qu'il avait avec Toubiana notamment. Et il avait fait un travail pour le coup qui était admirable. Et pour ceux qui sont dans la culture, je n'ai jamais écouter, vu quelque chose qui soit, je veux dire ça, de l'ordre de l'éducation à l'image de manière aussi forte. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est porté par un artiste qui a fait une lecture d'une œuvre qui n'est pas si simple que ça. Et après, ce que j'aimais aussi beaucoup chez Danet, c'était un homme de la parole. Il avait une parole qui était absolument hallucinante. Il avait une pensée en parole, je ne sais pas comment dire, qui était... Mais c'était d'abord profondément un amoureux du cinéma. Hein.
Et on peut... évoquer l'épouvantail, on peut pas évoquer l'épouvantail sans penser à La Nuit du Chasseur et à ce qu'en dit Serge Danet.
La Nuit du Chasseur, pour tous ceux qui considèrent qu'on est aussi fait par son enfance et que son rapport à la littérature, au chant, à tout ce qu'on veut, vient de l'enfance. Je me rappelle, j'avais 15 ans, je suis tombé sur cette chose invraisemblable qui m'a bouleversé. Ce que m'apporte Danet, c'est ce que j'avais pas encore. C'est que là, il dit que c'est vraiment de l'art, quoi. Et effectivement, ce film est de l'art. Un plan de Ford, c'est de l'art. Et ce que je parle de la réconciliation avec le cinéma est plutôt une réconciliation avec l'enfance et l'enchantement. Et je pense que des voix comme celle-ci nous grandissent, nous renforcent beaucoup plus sûrement. Alors il y a cette phrase que j'avais prise, parce que j'ai une autre, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jacques Demy. Il y a une phrase d'Agnès Varda que j'avais écoutée un jour et assez longtemps, et elle a cette phrase magnifique: je suis restée petite, mais j'ai grandi. Et je l'ai toujours mis en rapport avec une autre phrase de Suzanne Lillard qui disait: grandir est un acte de violence. Voilà, c'est des choses là, voilà, qui correspondent. Tu me dis, il fait encore des citations pour le plaisir, c'est des citations amoureuses. Donc on est fait de ça. Ouais.
Alors peut-être moi je voulais dire cette toute petite citation de Pasolini dans une conférence par rapport à ses films. D'ailleurs, il parlait des poèmes. Il disait: tous les poèmes modifient la réalité. Et toi, il n'y a pas longtemps, tu m'as dit nous pourrions être encore sauvés par le poème.
Oui, ça rejoint tout ce qu'on a dit, ce que j'ai pu dire aussi depuis tout à l'heure. Moi, la réalité, je ne sais pas ce que c'est. C'est un mot auquel on fait dire beaucoup de choses. Et donc, je préfère confier cette parole-là au poème et à la traduction de la manière dont je la ressens.
On n'a pas fait de sort un peu à la dernière partie du livre où il y a une méditation, je vous le disais, sur la nature qui est assez japonaise, je trouve, avec des choses très très belles. Juste une page, et puis après on passera au temps de signatures.
Une pie bavarde dans le ciel gris de ce matin d'hiver, allant son vol et son cri détestable. Puis un long silence et le chant des passereaux aimés. Un matin de pie, de prose, pas de poème en pie. Comment recevoir la pensée dans le poème ? Pas l'ombre d'un effet, le chant, rien que le chant, quelques noms scandés. Le poème comme preuve d'être. Non pas le reniement de la pensée, mais l'expression de l'ici, le refus d'une coupure. Une impossible réconciliation sans doute. N'importe, l'aveu d'une présence hostile à tout ce qui sépare, un amant de l'être. Alors après, je voudrais lire en fait le dernier poème, parce que c'est un clin d'œil. C'est la voix si pure de Mandelstam, ses humbles, lumineux accords, ce murmure d'avant les lèvres. Voilà.
Merci Eric.